C'est super. Donc je vous présente donc Jean-François Barbier-Bouvet, que nous avons invité comme sociologue à donner une perspective, remettre les très beaux témoignages, les passionnants témoignages que nous avons entendus ce matin, dans un contexte bien plus large, qui est celui de l'Europe occidentale, de la société française en particulier, voilà, parce qu'il faut se méfier, vous savez bien, des effets de loupe que nous avons tous. Hein. Là, on a entendu des témoignages que nous avons choisis, bien entendu. Qu'est-ce que je dois faire ?
Tu es trop près du haut-parleur. Il faut que tu t'éloignes du haut-parleur, je pense.
Non ?
Il faut que j'aille plus. Je dois faire quoi ?
Non, tu t'éloignes. Oui, vas-y.
Ils sont trop près. Donc je me mets ici pour présenter. Voilà. Voilà. Et ça va comme ça ? Voilà. Voilà, je parlais de l'effet de loupe, donc des témoignages choisis, évidemment, en lien avec notre sujet, et puis aussi de notre entourage, parce que voilà, parfois on est dans des milieux où beaucoup de jeunes vont à l'église, à la messe, sont chrétiens, d'autres où il n'y en a aucun. Enfin, vous voyez, et en fait, nous ne pouvons pas tirer des conclusions de ce que nous voyons seulement et de ce que nous entendons dire, parce qu'on a plein de filtres. C'est pour ça que la sociologie est intéressante. C'est parce qu'elle nous donne une vision un peu plus, plus en hauteur, plus généraliste. Voilà. Donc, Jean-François, tu es là parce qu'on se connaît quand même depuis longtemps, et puis tu es très lié à la vie déjà, puisque tu as été directeur des études quand la vie était encore membre du groupe qui s'appelait les Publications de la Vie catholique, avant le rachat pour le groupe Le Monde, puis travailler comme directeur des études aussi pour le groupe Le Monde. Voilà, et tu as réalisé des enquêtes sur les pratiques culturelles, le rapport aux médias et l'information, les pratiques religieuses et les démarches spirituelles des Français, que nous avons d'ailleurs pu... Vous avez peut-être oublié le nom de Jean-François, mais vous avez lu des articles dans La Vie qui étaient inspirés de ces travaux. Et tu es l'auteur notamment d'un livre qui s'appelle « Les nouveaux aventuriers de la spiritualité, enquête sur une soif d'aujourd'hui ». Et c'était paru chez Mediapole en 2015. C'est justement le sujet qui nous réunit. Donc... comment les témoignages de ce matin résonnent dans ton oreille d'observateur, et puis comment tu les resitues plus largement dans cette ambiance que nous connaissons, la France de 2023.
Merci. Alors, donc je vais me pencher. Est-ce que vous m'entendez bien ? D'accord. Donc, tu parlais de l'effet de loupe à propos des témoignages ce matin. Moi, je parlerai plutôt des faits de vérité, ce qui rend mon boulot extrêmement difficile, parce que succéder à des personnes qui disent « je », qui témoignent en vérité, quand son propre métier, c'est de surtout supprimer son propre « je » et de dire « on »,« il », »,« les gens », etc., ça me met presque en position d'infériorité, je dirais, parce que la qualité des témoignages était telle. Et en même temps, un certain nombre de choses qui ont été dites, on croise... Des éléments que j'ai trouvés dans mes différentes études. Alors, le titre que tu m'as donné, c'est « Chacun cherche son sens », qui est quand même assez vaste. Il va falloir que je restreigne un peu. Je me suis simplement amusé. Tout le monde cherche à donner du sens à sa vie, quelle que soit la personne concernée. Mais tout le monde ne met évidemment pas le même sens sous le mot « sens ». Donc, je me suis amusé à regarder le dictionnaire des synonymes. J'ai trouvé 27 synonymes, donc je pense que je ne les prendrai pas tous en compte. Je vous en cite quelques-uns. Amour, but, chemin, clé, conception, conscience, je suis encore à la lettre C. Hein. Mission, orientation, perspective, sagesse, raison d'être, etc. Donc on peut y aller. Et en même temps, les bons dictionnaires de synonymes donnent les antonymes, c'est-à-dire les contraires. Et dans les contraires du mot sens, il y en a que 7. Autour du non-sens, ce qui est plutôt réconfortant d'une certaine manière, même si ça ne simplifie pas mon boulot. Alors, ce que tu as dit, c'est que je voudrais essayer d'inscrire les évolutions actuelles de la recherche de sens spirituel. Oui, j'aurais dû donner un autre élément. Dans beaucoup de sondages, on pose des questions aux gens sur, alors j'ai des formulations, est-ce que vous êtes intéressé par le sacré, est-ce que vous êtes intéressé par le spirituel, ou est-ce que vous pensez que la dimension religieuse est importante ou spirituelle pour réussir sa vie. Donc des questions d'implication forte dans la recherche de sens posée à tout le monde. Et quelle que soit la manière dont la question est posée, on a toujours un tiers de personnes qui disent que la dimension sacrée ou religieuse ou spirituelle, etc., est importante pour eux. Ce qui ne veut pas dire que les autres ne cherchent pas de sens, mais qu'ils ne se reconnaissent pas dans ces mots-là. Donc, ce dont je vais essayer de vous parler, c'est au fond, quels sont les grands changements aujourd'hui dans l'ensemble de la société, dans le monde extérieur, qui influent directement sur la recherche de sens. C'est-à-dire, au fond, quels sont les changements globaux qui vont nous changer dans ce domaine particulier du religieux et du sens. Puisque ce qui se passe dans le domaine du religieux, et même, bien que je n'en parlerai pas aujourd'hui, dans le domaine du catholicisme, n'est pas que lié à des erreurs de gestion de l'Église, mettons, mais lié à des évolutions générales. Et c'est des phénomènes qu'on retrouve dans le monde politique, qu'on retrouve dans le monde syndical, qu'on retrouve dans tous les domaines, dans le monde associatif, etc. Donc on va voir au fond quels sont les changements sociaux qui sont en train de nous changer religieusement. Alors, je vais vous donner une première toile de fond qui paraît un peu cateau, puis après, on part dans toutes les directions. Mais il faut déjà que je fasse le point sur où en est la sphère catholique aujourd'hui en France, statistiquement. Après, il n'y aura pas d'autres stats, mais statistiquement. Et au fond, on parle toujours de la messe, aller à la messe, qu'il n'y a plus personne dans les églises, ou finalement, il y en a encore un peu, etc. Mais il y a trois dimensions. Pour analyser ce qui se passe aujourd'hui dans la sphère catholique, c'est l'appartenance, c'est-à-dire le nombre de gens qui se déclarent catholiques en France aujourd'hui. Il y a la croyance, c'est le nombre de gens qui croient en Dieu, qu'ils soient catholiques ou pas d'ailleurs. Et puis il y a l'observance, c'est-à-dire le fait d'aller à la messe. Alors, si je commence par la croyance en Dieu, de manière générale, évidemment, quand on pose des questions dans les sondages, ce n'est pas évident de répondre par oui ou par non. D'ailleurs, les questions sont souvent posées subtilement et les réponses sont assez graduées. Là, je me fie à des enquêtes du CNRS plutôt que de l'IFOP. Et au fond, aujourd'hui, un Français sur deux dit croire en Dieu. Alors, on reviendra sur ce que ça veut dire après. Mais statistiquement, un Français sur deux dit croire en Dieu. Alors, l'appartenance, quand on demande aux gens s'ils se sentent appartenir à une religion, si oui, laquelle, et ceux qui ont dit catholique, on est un peu moins de 40%. C'est-à-dire moins que la croyance en Dieu, d'ailleurs, soit dit en passant. Et si on regarde le troisième volet, c'est-à-dire l'observance, il y a aujourd'hui entre 6 et 8% des Français qui vont à la messe au moins une fois par mois, puisque la catégorie qu'on donne dans les enquêtes maintenant, c'est une fois par mois. C'est en gros un Français sur 12 ou sur 14. Ça fait quand même 4 millions de personnes. Hein. Voilà. Et si on va jusqu'à la pratique occasionnelle, c'est-à-dire que si on ajoute à ceux qui vont au moins une fois par mois, ceux qui vont à Noël, à Pâques, aux grandes fêtes, au 15 août, etc., on arrive à un total d'à peu près 20%, c'est-à-dire une personne sur 5. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, vous lisez partout que tous ces indicateurs descendent, que ce soit la croyance, l'appartenance ou l'observance. Tout ça, ça descend depuis, on peut dire vite, depuis 45, enfin depuis en fait, une période qu'on a vécue quand même. Mais tout ne descend pas à la même vitesse. Et c'est assez curieux de voir que finalement, si vous prenez le fait d'aller à la messe, le déclin, il est régulier. Non, je ne sais pas dans quel sens il faut que je mette la main pour que ça descende. Dans ce sens-là ? Non, dans l'autre. Enfin, je ne sais pas. Je suis à l'envers. Hein. Mais le déclin est régulier depuis l'après-guerre. Et tous les ans, les statistiques descendent et pour se stabiliser autour de 6-8 aujourd'hui. Enfin, quand je dis stabiliser, je ne suis pas sûr que ce soit stable. Si vous prenez le fait de se dire catholique, ça ne va pas du tout à la même allure. C'est resté stable jusque dans les années 70-80. Il y avait 60% des Français qui se disaient catholiques. Et ça a commencé à dégringoler après les années 80. Et quand on se dit catholique, ça ne veut pas dire forcément qu'on croit, qu'on appartient à la communauté de l'Église ou qu'on y croit, qu'on croit à la doctrine catholique. Ça veut dire qu'il y a aussi dans ces réponses des catholiques culturels. Moi, si vous me demandez d'où je suis, je dis que je suis Lorrain, je suis né à Bar-le-Duc. Mais bon, honnêtement, voilà, c'est un appartement sointaine. On peut se dire catholique en reconnaissant une appartenance culturelle. Et là, même cette reconnaissance-là, qui était à 60% il y a 20 ans, en gros, eh ben, elle commence à descendre aussi. Et si on prend la croyance, c'est-à-dire la foi en Dieu dans l'ensemble de la population française, dont je vous ai dit qu'elle était aujourd'hui autour de 50, en fait, elle aussi était constante et elle s'est cassée la figure autour de mai 68. Mais vraiment cassée la figure. Quand on regarde les courbes, boum, il y a une marche. Et à nouveau, elle est constante en position basse, enfin basse, à 50%. C'est-à-dire que la pratique descend de manière régulière. L'appartenance, elle ne descend que depuis les années 80, et la croyance en Dieu s'est cassée la gueule dans les années mai 68, et maintenant elle est constante autour de 50. Voilà. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, ces trois notions qui ont été pendant des siècles très liées, c'est-à-dire quand on croyait en Dieu et on était catholique, on allait à la messe, elles sont aujourd'hui complètement disjointes. C'est-à-dire qu'on peut se déclarer catholique et pas aller à la messe. On peut être croyant sans être catholique, bien sûr, ou même sans avoir une religion précise. Et parmi ceux qui se déclarent catholiques, tout le monde ne croit pas en Dieu. C'est-à-dire, quand on croise les réponses entre elles, on trouve des tas d'endroits inattendus, si vous voulez. Donc, il y a une espèce de modulité de rapport à la religion qui est tout à fait typique de la modernité. Hein. Il y a des quantités de domaines où on est aussi dans la contradiction, où on peut avoir des comportements qui sont en contradiction, mais les avoir de manière conjointe, etc. Alors maintenant, on oublie les chiffres et on rentre non pas dans le dur, mais dans le mou, c'est-à-dire dans la vie, et on va regarder la pratique dominicale. La pratique dominicale, indépendamment des problèmes d'église, elle reflète une modification qui, pour nous, est très importante dans le domaine spirituel, qui est une modification du rapport au temps dans notre société. Et qui touche aussi bien la religion que le militantisme politique, que tout ça. Et au fond, le calendrier social aujourd'hui est de moins en moins régulier, de moins en moins marqué. On est dans le sur-mesure. Il y a une perte des cycles temporels partagés par tous ou des rituels partagés par tous. Alors, pour être concret, je vais parler de choses qui concernent la consommation. Les services 24 heures sur 24 qui se sont développés, ça veut dire qu'aujourd'hui, le jour vaut la nuit. Les boutiques ouvertes 7 jours sur 7, ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les jours se valent. Et les magasins le dimanche, c'est pareil. Le dimanche n'est plus un jour particulier. Si vous regardez les fêtes religieuses par rapport mettons Pâques, par rapport aux vacances scolaires, Pâques ne tombe pas toujours dans les vacances. Donc il y a un décalage là aussi des rituels, c'est-à-dire que les rituels deviennent mobiles. Et si on regarde les pratiques de recherche de connaissances qui avant se faisaient dans des lieux précis, à l'école, l'église ou ailleurs, sur Internet, c'est quand tu veux, comme tu veux. Donc au fond, comment les temps sociaux sont de moins en moins marqués, les activités qu'on fait sont de moins en moins affectées à un temps précis, et du coup la baisse de la pratique dominicale s'inscrit aussi dans cette logique-là. Elle devient occasionnelle, etc. Mais cette baisse de la ritualisation sociale, elle ne produit pas du vide. Il y a d'autres temps qui sont surinvestis dans tous les domaines, et aussi dans le religieux. Par exemple, les temps forts de la société, les événements sont surinvestis. Alors, ça vaut aussi, par exemple, pour la pratique politique ou militante. C'est-à-dire que les investissements, c'est sur des mobilisations courtes, intenses, pas forcément cyclique, la marche pour la planète, par exemple, ou des choses comme ça, sans permanence dans les gens, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément les mêmes qui vont à ces différents temps forts, et sans permanence dans les lieux, puisque ça peut se passer absolument n'importe où, aussi bien dans une église qu'ailleurs. L'exemple emblématique dans le champ religieux de cette montée des temps forts au détriment des temps rituels, c'est les JMJ, ou c'est le Papa Marseille. C'est-à-dire qu'on a à la fois une mobilisation spectaculaire sur un moment très très fort et très visible, et qui ne débouche pas forcément sur une pratique, parce que moi j'ai eu l'occasion pour la vie de faire une enquête sur les jeunes qui étaient allés au JMJ, au retour ils n'allaient pas plus à la messe qu'avant. Donc on est vraiment sur un surinvestissement des temps forts, ce qui est une vraie piste pour le spirituel, hein, ceci dit. Et alors, il y a puisqu'on n'a plus les temps réguliers, il y a un surinvestissement sur les temps personnels et individuels, les temps forts de la vie. Et tout ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'était ça, c'est-à-dire que les moments déclencheurs sont des temps forts de la vie. Ça peut être un licenciement, ça peut être un pèlerinage, ça peut être d'aller dans une institution, etc. Et au fond, on le voit dans, même sur la messe, on le voit, parce que on voit que la pratique régulière de la messe diminue au profit de la pratique occasionnelle. Donc moi, quand j'en parle, on me dit, bah ouais, occasionnels, ils ne sont pas trop investis, ils vont une fois de temps en temps, etc. Bah, pas du tout, les pratiques occasionnelles sont surinvesties. C'est-à-dire que les gens qui vont peu, mais qui vont quand même, ils y vont parce qu'à ce moment-là, ils pensent que c'est important pour eux. Je prends l'exemple classique, quand vous allez en vacances, si vous allez en vacances dans un bled où le curé est génial, vous allez à sa messe, et une fois rentré chez vous, c'est terminé. Donc au fond, l'occasionnel peut être une occasion surinvestie, et non pas le signe d'une dilution de la pratique. Et il faut accepter ça. Bon, les professionnels de la religion ont du mal à l'accepter, mais il faut accepter ça. Occasionnel ne veut pas dire distant, hein. Et qualitativement, ça peut être très fort. Et autre surinvestissement du calendrier qui n'est pas rituel, c'est le calendrier personnel, c'est-à-dire autour de soi, les naissances, les décès, les accidents de la vie, les mariages. C'est des temps forts d'arrêt sur soi. Alors vous me direz, on n'a pas attendu le 21e siècle pour que ce soit des temps forts d'arrêt sur soi. C'est absolument pas nouveau. Sauf que, comme les gens sont sortis de la ritualisation, et en particulier de la ritualisation religieuse, ces temps forts de la vie sont surinvestis par rapport à ce qu'ils étaient avant. Et c'est des moments aussi privilégiés pour les rencontres, etc. Voilà. Alors, entre ces occasions surinvesties des temps forts de la vie ou des temps forts de la société, entre ces occasions, entre cette pratique occasionnelle investie aussi, eh ben, la quête spirituelle peut se mettre en état de disponibilité latente. Yves Lambert, qui est un sociologue que j'aime beaucoup et qui est mort malheureusement, parlait de religiosité intermittente. Et alors il avait une image, c'était le modèle de la baleine. La baleine, comme on le sait tous, enfin, moi, je l'ai appris récemment, comme c'est un mammifère et pas un poisson, donc il a besoin d'air. Donc la baleine, elle plonge, okay, on ne la voit plus. À un moment, elle a besoin de ressortir pour prendre de l'air. Et il dit, au fond, la quête spirituelle fonctionne souvent sur le modèle de la baleine. À un moment, on a besoin de reprendre de l'air, puis on replonge, en utilisant l'air qu'on a repris. Et il n'y a qu'une seule chose dont on est presque sûr, c'est qu'à un moment ou à un autre, la baleine, elle réapparaîtra. Pour le spirituel, souvent, c'est comme ça aussi. Donc, au fond... la phrase qu'on entendait beaucoup avant dans les églises, on disait ben voilà, il y a des croyants avec leur période de doute. Aujourd'hui, on est dans une culture où il y a des doutants avec leur période de foi, ce qui n'est pas exactement la même chose. Alors, puisqu'on parle de la foi, tout à l'heure, je vous ai dit qu'aujourd'hui, un Français sur deux croyait en Dieu sans que cette croyance soit forcément encadrée par l'institution, ni même qu'elle soit permanente, puisqu'on peut avoir des coups de mou, revenir, etc., la perdre définitivement ou la trouver définitivement. Et alors, cette notion de croyance, si on la creuse un peu à partir des enquêtes, où on interroge des gens, etc., on s'aperçoit qu'il y a deux glissements fondamentaux autour de la croyance. C'est-à-dire que l'un concerne ce en quoi on croit. Il y a un déplacement du précis vers l'imprécis. Là, je vais y revenir. Hein. Et la deuxième évolution, c'est sur la manière de croire. C'est un déplacement de la foi au plausible. Alors, c'est quoi, déplacement du précis à l'imprécis? Ben, au fond, de quel Dieu parle-t-on? Et là, on voit dans les enquêtes, hein, sur longue période, sur une ou deux générations, disons, une inversion de la représentation de Dieu chez ceux qui croient en Dieu. Quand on leur demande, ben, au fond... quel est le Dieu dont vous parlez? Quel est celui auquel vous croyez? Il y a une baisse de l'affirmation « il y a un Dieu personnel » au profit de la montée de l'affirmation, il y a une sorte d'esprit ou de force vitale. Vous voyez, il y a une espèce de croisement de ces deux représentations de Dieu, en n'oubliant pas que la première formulation, celle qui baisse, « il y a un Dieu personnel », correspond aussi à la formulation chrétienne. Voilà. Et dans les témoignages de tout à l'heure, on a entendu ces mots d'esprit, de force vitale, etc. Voilà, donc la définition, la définition précise baisse au profit d'une définition vague, ce qui ne veut pas dire que ce soit une définition distante. C'est-à-dire que quand on éprouve l'expérience de cette présence qu'on ne sait pas nommer, cette expérience peut être forte, mais elle n'est pas forcément désignée précisément. D'ailleurs, toutes les croyances ne baissent pas. Il y a un certain nombre de croyances qui baissent, mais il y en a une qui baisse absolument pas. C'est la croyance qu'il y a quelque chose après la mort. Et ça, c'est quand même très intéressant parce que c'est au fondement de certaines des démarches ou des recherches religieuses de sens. Et curieusement, c'est même une croyance qui monte dans les jeunes générations, alors que toutes les autres ont tendance à se casser la figure. Et alors, l'existence d'une vie après la mort, ça peut être la réincarnation, ça peut être la résurrection, ça peut être une espèce d'une adhésion à Gaïa, à la terre, à la terre-mère, etc. Et au fond, comme les références religieuses des gens baissent, cette croyance dans l'immortalité ou dans la vie après la mort, par défaut, occupe une place encore plus importante dans les spiritualités, je dirais, moins encadrées, qui sont celles qui se développent aujourd'hui. Et puis, surtout, le fait que les spiritualités soient moins encadrées, ça libère complètement la créativité dans le domaine spirituel. Donc, il y a des formes de croyances d'après-mort qui partent absolument dans tous les sens. Et puis, un troisième élément de cette croyance d'après-mort, qui est un peu une toile de fond de certaines spiritualités, c'est que cette immortalité, si on peut le dire comme ça, elle change de nature, c'est-à-dire qu'elle ne renvoie plus à une fonction de jugement. Elle renvoie ou à l'idée d'un salut. C'est simplement, d'une certaine manière, un désir de survie, ou le rêve que la mort ne soit pas mortelle. Mais l'idée de salut, qui était aussi fondamentalement chrétienne, n'est plus au cœur des croyances aujourd'hui en l'immortalité, quelle qu'en soit la nature. Alors, après ce que l'on croit, on voit un déplacement du précis vers l'imprécis. Je vous avais dit qu'il y avait un déplacement de la foi au plausible. C'est une chose qu'on voit dans tous les domaines sociaux, mais aussi dans le domaine religieux, évidemment. C'est la montée du probabilisme. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et quand je vous ai dit que la croyance en Dieu avait baissé un grand coup, et puis après maintenant est stable, mais à l'intérieur, la manière de répondre à la question bouge, c'est-à-dire qu'au fond, la baisse de la croyance avérée, je suis sûr que Dieu existe, ou quelque chose qui est de l'ordre de Dieu, elle ne s'abaisse pas tant au profit de son contraire, je suis sûr qu'il n'existe pas, mais s'abaisse au profit de réponses du type « c'est probable, c'est possible », etc. C'est-à-dire, en fait, la croyance avérée baisse au profit non pas de la négation, mais de l'incertitude ou de la probabilité. Et ça change complètement aussi la nature des démarches religieuses. Alors, je vais prendre encore maintenant un peu de recul et en partant des attributs... J'ai le temps ? D'accord. Je parle un peu vite en plus. En partant des attributs de la modernité contemporaine, essayer de voir, comme on l'a vu à travers un certain nombre d'enquêtes, dont celle qui a donné lieu au bouquin que tu citais, j'avais interrogé 8000 personnes quand même, on commence à faire, de manière assez qualitative par Internet. C'était des personnes qui, toutes d'une manière ou d'une autre, avaient fait ou des stages, ou des week-ends, ou des démarches, ou des retraites, ou Saint-Jacques de Compostelle, des gens qui avaient investi à un moment, mais pas forcément dans du catéchisme, pas forcément dans de l'activité paroissiale, loin de là. Et au fond, en regardant un peu l'arrière-plan de ce qu'ils nous disaient, avant de regarder précisément ce qu'ils nous disaient, ça m'a amené à faire une mise en perspective historique. Je vais aller très très vite, mais au XXe siècle, siècle que nous avons presque tous vécu en grande partie, sauf les petits jeunes qu'on a vus à la fin, au XXe siècle, on a vu s'effondrer ou reculer tous les messianismes, toutes les pensées du salut, que ce soit les messianismes religieux, alors en Occident, chez nous, c'est le christianisme, évidemment, ou les messianismes séculiers, c'est-à-dire le marxisme. Et au fond, quand ce qui fait système recule, qu'est-ce qui reste ? Il reste l'individu, qui du coup se retrouve au centre, et on y reviendra. Mais il n'y a pas qu'un problème avec ce qui fait système, il y a aussi un problème avec ce qui fait récit, c'est-à-dire les grands récits fondateurs, comme le récit chrétien, ou qui sont des récits des conceptions de l'homme, se sont pris quelques secousses ontologiques, et alors, ou des blessures symboliques, comme dirait Freud. Alors Freud, il distinguait trois blessures symboliques. Il disait, voilà, ce qui a complètement ébranlé notre système de croyance, la première blessure symbolique, c'est Copernic. On découvre que la Terre n'est plus au centre du monde. Ça fait beaucoup bouger. Après, la deuxième, c'est Darwin, où on découvre que l'homme n'est plus au centre de la création, mais il est le produit d'une évolution. Ça a un peu remué aussi le christianisme. Et puis, la troisième blessure symbolique, dit Freud, c'est Freud. Ce garçon ne péchait pas par modestie. Et il dit, au fond, c'est quand on a découvert que la conscience n'est plus au centre de l'homme et qu'on peut être manipulé par son inconscient. Tout ça déstabilise énormément. Donc, quand on a tout ce double système de déstabilisation, qu'est-ce qui se passe ? Ben, quand ce qui fait système recule, c'est l'individu qui devient de plus en plus la mesure de toute chose. Et dans les démarches spirituelles, on va le voir très bien. C'est-à-dire qu'au fond, l'individu, le soi, le moi, là aussi on l'a entendu dans les témoignages, devient l'alpha et l'oméga, même si l'expression s'appliquait avant à Dieu, hein, je crois. Et puis quand ce qui fait récit s'affaiblit, ce qui est surinvesti, c'est l'ici et maintenant, c'est-à-dire le présent, aujourd'hui, pas forcément hier, pas forcément ce qui m'attend demain. Alors, quels sont les effets observables de ce double mouvement vers l'individu et vers le présent dans le domaine spirituel, dans les démarches des gens que nous avons intéressés? Et alors, première, c'est un désir d'accès direct aux sources. C'est-à-dire, beaucoup considèrent que la quête spirituelle peut se passer d'intermédiaire entre soi et le divin ou la transcendance, etc., ce que les sociologues appellent l'autospiritualité. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'on peut faire l'économie de l'institution et de ses dogmes au profit d'une ligne directe avec le divin ou avec le spirituel ou avec la nature. Et du coup, ça veut dire qu'on peut directement accéder aux sources. D'ailleurs, grâce à Internet, on peut aller directement à la Bible, on peut aller directement à la Bhagavad Gita, on peut aller directement avec tout ça, avec un effet quand même un peu compliqué, c'est-à-dire que si on tape un mot-clé, on tombe sur le passage qui nous intéresse, et on a le texte, mais on n'a pas le contexte. C'est-à-dire, quand on prend un fragment d'un texte spirituel, parce qu'on y va tout seul et qu'on y va sans mode d'emploi, on ne sait pas toujours le remettre dans le récit. Et puis, d'autre part, l'idée qu'on a un accès direct aux sources, ça veut dire que les médiateurs, parmi lesquels les prêtres, mais parmi lesquels les hommes politiques, mais parmi lesquels les syndicalistes, parmi lesquels beaucoup d'autres médiateurs, sont considérés paradoxalement comme des écrans, et non pas comme des passeurs entre soi et les fondamentaux qu'on recherche. Alors du coup, certains qui n'apprécient pas trop cette démarche parlent de bricolage spirituel. Le mot étant évidemment, sous son acception négative, hein, quand on va à la fois voir du côté du bouddhisme, de l'hindouisme, du christianisme, du judaïsme, etc., c'est du bricolage spirituel. Alors, il n'y a aucun doute que dans la démarche spirituelle, on se livre à l'individualisation du croire, hein, pour reprendre l'expression d'Hervieux Léger. Mais le mot bricolage spirituel, quand il est employé, il évite de comprendre ce qui se passe en vrai. Parce que c'est comme si l'approche était superficielle, et c'est comme si cette approche était syncrétique. Et d'ailleurs, il y a des gens qui nous disent « ouais, c'est du zapping spirituel ». Sauf que d'ailleurs, si on regarde l'origine du terme zapping, c'est-à-dire la télé, quelqu'un qui zappe, c'est quelqu'un qui change dès que ça cesse de l'intéresser, ce qui veut dire qu'il est vachement attentif. Quelqu'un qui ne zappe pas, il a une écoute superficielle, il y a la télé qui parle dans un coin, c'est pas grave. Quelqu'un qui zappe, c'est quelqu'un qui fait vachement attention. Donc si c'est du zapping, dans le sens où je le dis, c'est bien. Hein ? Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que quand on interroge les gens, c'est que ces démarches qui passent d'un endroit à un autre, elles sont très investies au moment où elles sont vécues. Elles sont très investies. Même si l'objet peut évoluer dans le temps, au fil d'une vie, etc., il y a des itinéraires. Alors, on demandait aux gens de retracer leurs itinéraires de vie. Il y a des itinéraires qui sont tout sauf linéaires, hein, mais c'est la vie. Hein. Et puis, même si l'objet sur lequel porte la démarche peut évoluer au fil du temps, voire cumuler des objets qui n'ont rien à voir entre eux, l'hindouisme et le christianisme, à un moment donné. Mais ce n'est pas superficiel. Et le syncrétisme qu'on reproche à cette démarche, qu'on associe à la notion de relativisme spirituel, ça suppose qu'on pense que dans la tête des gens, tout se vaut. Et quand on les interroge, évidemment, ça, tout ne se vaut pas. C'est-à-dire que même les gens qui se sont éloignés d'un schéma un peu cohérent, qui associent plusieurs traditions, ou qui prennent une tradition, mais qui n'en prennent qu'un bout. C'est pas mal. Et prennent pas ce qui les arrange. Ça, ce serait effectivement du syncrétisme. Mais ils prennent ce qui leur paraît essentiel. Et le mot qui revient le plus dans les interviews, c'est le mot discernement. Ou c'est synonyme. Là, je n'ai pas regardé dans le dico, mais c'est l'équivalent. Et quand ils nous parlent de ces différents apports, ils nous parlent en termes de hiérarchisation. C'est-à-dire qu'ils distinguent clairement ce qui est au centre pour eux et ce qui est à la périphérie, ce qui est fondamental et ce qui est accessoire. Donc, du coup, tout ça peut cohabiter. Hein. Et la figure qui rend le mieux compte de cet enrichissement, d'une certaine manière spirituelle, c'est le mot arborescence, et pas du tout le mot équivalence. Hein. D'ailleurs, une remarque intéressante, dans les gens qu'on a interviewés, il y en avait un certain nombre qui avaient suivi des sessions de type chrétien, même si ce n'était pas des sessions très, très cadrées. Et quand on regardait leur démarche, on s'apercevait que ceux qui avaient des racines chrétiennes, quoi qu'ils en aient fait depuis, avaient d'une certaine manière un avantage comparatif par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller un peu partout, mais ils se perdent beaucoup moins partout. C'est-à-dire qu'au fond, quelqu'un qui est d'origine chrétienne et qui garde ces racines-là en lui, ce n'est pas une dilution de sa religion, c'est une dilatation de sa religion d'origine, pour reprendre la manière dont c'est vécu. J'ai dit ça une fois à un évêque, il a failli me tuer. Donc au fond, on est dans la recomposition spirituelle et non pas dans le syncrétisme ou le bricolage. Alors, premier effet de l'individualisation dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'accès direct aux sources, la distance aux institutions et la recomposition spirituelle. Le deuxième aspect, c'est la personnalisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, dans les nouvelles générations, jeunes et adultes, hein, elles valorisent une conception beaucoup plus horizontale dans tous les domaines que verticale. Hein. Et c'est pareil, ça vaut pour la politique, ça vaut pour l'Église. Manque de bol, l'Église, c'est quand même une représentation plus que verticale, doublement verticale, théologiquement verticale entre le ciel et la terre, et administrativement verticale entre les fidèles, les évêques et le pape. Donc ce n'est pas très tendance. Hein. Et l'argument d'autorité ne tient plus. Ou plus exactement, il ne tient plus tout seul. Et ce qui fait autorité, ce qui fonde au fond le désir de suivre une démarche qui va vers quelque chose qui me dépasse et qui me tire en avant, la figure centrale, c'est le témoin. C'est la rencontre. Et certains de ceux qui ont parlé ce matin ont parlé de rencontres qui ont été déterminantes pour eux. Et au fond, alors il y a une version dégradée du témoin sur les réseaux sociaux, c'est l'influenceur, mais ça on n'en parlera pas. Donc en fait, on surinvestit dans sa démarche spirituelle sur la qualité personnelle de celui qui m'en parle. C'est-à-dire, c'est bien parce que celui qui me le dit est un type bien. Il y a même un paradoxe, c'est qu'on trouve dans l'enquête simultanément des gens qui rejettent l'Église, mais qui disent que c'est absolument formidable, l'abbé Pierre, Mère Teresa, le pape François, etc. C'est-à-dire que la popularité des individus peut coexister avec l'impopularité des structures, et, ou un jugement personnel positif sur un jugement personnel négatif, et surtout l'un n'entraîne pas l'autre. Voilà. La personne exemplaire qu'on rencontre, le témoin qui va me faire évoluer, il me fait évoluer moi, et il n'est pas le porte-parole de sa structure. Et au fond, la démarche spirituelle est très souvent ou initiée, ou alimentée, ou relancée par pour prendre l'expression de Gurdjieff, des rencontres avec des hommes remarquables, ou des femmes remarquables. Lui, il avait dit hommes, mais bon, il n'oserait plus. Et des témoins. Mais ce n'est pas forcément des maîtres spirituels 5 étoiles, ce n'est pas forcément des gourous. Ça peut être quelqu'un sur un chemin de Compostelle, ça peut être les parents pour leurs enfants, un copain, etc. C'est-à-dire que ça pose une question fondamentale pour la transmission, parce qu'avant la transmission, en tout cas religieuse, elle était assurée par un partage des connaissances via le catéchisme, etc., et par une institution, mettons l'Église. Si elle repose sur la seule logique du témoignage, de la rencontre et de l'exemplarité, c'est quand même un peu casse-gueule, parce que s'il faut tous être... Moi, je veux dire, si je veux transmettre à mes enfants, et que je ne suis pas exemplaire aux yeux de mes enfants, quand même. Donc ça complique singulièrement la logique de la transmission, et ça peut aussi expliquer ce qu'on voit, c'est-à-dire la perte en ligne de la transmission, parce qu'on n'a pas toujours la chance d'être tiré en avant par des gens qui portent en eux quelque chose qui me touche. Donc accès direct aux sources, etc. Personnalisation, le rôle central des témoins, c'était la deuxième idée. Troisième idée, le caractère absolument central, et on l'a entendu ce matin, de l'expérience personnelle. Hein ? C'est-à-dire, l'expérience personnelle, c'est un vecteur de connaissance. L'expérience personnelle, ça valide mes certitudes, parce que je l'ai senti, moi, directement. Et on d'une certaine manière, alors je vais le dire de manière vulgaire, mais tant pis, on voit se développer dans la sphère du spirituel et de la logique de recherche spirituelle, la logique qui est typique de la modernité et qui est à l'œuvre dans les sphères, mettons, de la consommation matérielle, qui est une logique de l'efficacité. C'est-à-dire, dans le domaine spirituel, si ça marche pour moi, si je l'ai senti, c'est qu'effectivement, c'est important. Hein. Et c'est pas propre au spirituel. Je prends un exemple, là aussi je sors de mon sujet, mais je reste dans mon sujet quand même. Prenez les émissions de télé. Vous avez une émission de télé, vous avez 5 mecs sur un plateau pour parler de la famille ou du divorce ou je sais pas quoi. Bon, il y a 3 témoins, 2 experts. Il y a, mettons, François de Saint-Gly, mon copain spécialiste de la sociologie de la famille. Puis il y a une personne qui est divorcée, une personne qui est en couple, mais ses parents ne le savent pas. Et la troisième, c'est pas quoi. Et la parole de témoignage de la personne qui atteste de son expérience personnelle et qui, à la fin, peut éventuellement même se mettre à pleurer en direct, vaut beaucoup plus que tous les bouquins de mon copain François de Saint-Gly. Sa crédibilité est supérieure parce que son expérience est tangible, au lieu de parler par concept, comme je le fais moi, ou comme le font tous les experts. Et au fond, les larmes l'emportent sur le concept. Et j'ai relevé des phrases dans les témoignages, à la fin, Alexandre, quand on lui demandait, ben, c'est quoi le point commun de tous vos témoignages, il a dit, le point commun qu'on a entre nous quatre, c'est l'expérience. Et Corentin a dit, notre point commun à tous, c'est qu'on part de soi. C'est exactement ça. J'ai remercié d'ailleurs, parce que sinon j'étais décalé. Et alors, du coup, dans cette dimension d'expérience est aussi beaucoup alimenté par quelque chose qu'on retrouve de plus en plus dans le spirituel, qui sont les valeurs d'émotion. Et dans tous les domaines, hein, les valeurs d'émotion, ce n'est pas que dans le spirituel. Voilà. Alors, il y a des risques parfois, c'est-à-dire quelquefois, on ne sait plus très bien où est la frontière entre le développement personnel et le développement spirituel. Mais bon, chacun se débrouille avec sa démarche, et puis voilà. Et puis, il y a une pathologie possible des valeurs d'émotion, des valeurs d'émotion exacerbées, c'est le problème de la manipulation mentale. Mais c'est une pathologie, c'est-à-dire que ça ne doit pas condamner l'ensemble des démarches fondées sur l'expérience, le retour à soi et l'émotion, sous prétexte qu'il y a des gourous et de la manipulation mentale. Toute démarche a sa pathologie, y compris les démarches les plus canoniques. Mais la proposition centrale qui ressort de ça, c'est que dès lors que les gens attendent du spirituel non pas seulement une vérité, mais un épanouissement, qui est vraiment le mot central. Hein. Ce qui définit qu'une chose est bonne ne tient plus seulement à ce qu'elle est attestée par l'histoire, par un magistère, mais à ce que je l'ai éprouvé et qu'elle me fait du bien à moi. Ça, c'est vraiment central. Et à la limite, chez les catholiques ou chez les chrétiens, l'argumentaire ne devrait plus être chrétien, c'est bien, mais être chrétien, ça fait du bien. Dans cette logique-là. Alors, quatrième effet de l'individualisation, tu me coupes, hein, si je...
Tu as encore un quart d'heure,
ça dort. Ouais, je vais couper moi-même, allez. Accès direct aux sources, personnalisation, rôle des témoins, l'expérience personnelle et l'émotion. Quatrième point, qui n'est pas indépendant, c'est le rapport au corps. C'est-à-dire que le corps est surinvesti dans notre rapport au monde en général et aux autres. Et il est surinvesti aussi dans le domaine spirituel. Et les stages de développement personnel ou spirituel l'attestent, mais aussi dans l'enquête sur mes 8000 personnes, la méditation venait avant la prière. Parce que la méditation, ce que tu as fait ce matin d'ailleurs, passe par des postures. Le corps est très, très important dans cette méditation. Et au fond, le corps, qui est survalorisé aujourd'hui dans la modernité, il est devenu, pour ce qui nous concerne, notre sujet du jour, une porte d'entrée essentielle vers l'intériorité. Et à une discussion au dîner hier soir avec une professeure de yoga, elle me disait exactement ça, et elle me disait que c'est ça qui avait choqué son curé. Donc, voilà. Et c'est peu dire que l'image de l'Église est en porte-à-faux, justement, par rapport à cette conception du corps. La tradition occidentale, chrétienne, canonique, a souvent abouti à ce que le corps était vu comme une contrainte qu'il faut dominer pour permettre à l'âme de s'élever. Il s'agissait de se libérer de son corps. La consigne moderne, c'est libérer son corps. Ce n'est pas vraiment la même chose. D'où l'impossibilité de certains discours chrétiens d'être entendus. Voilà. Et alors, bon, c'est... Enfin, ce n'est pas anecdotique, mais par rapport à mon sujet, ça aurait pu ne pas exister. Les dérives sexuelles, la mise en connaissance des dérives sexuelles de l'Église n'arrange pas son image. De ce point de vue-là, compte tenu de la survalorisation de cette dimension. Dernier point qui bouge, après l'accès aux sources, après la personnalisation, après le primat de l'expérience personnelle, après le rapport au corps, c'est le rapport au temps. Alors on l'a dit tout à l'heure, hein, tout ce qui fait récit pose problème. Et quand ce qui fait récit, qui nous inscrit dans une continuité, fait problème, ce qui compte le plus, c'est l'ici et maintenant. L'ici et maintenant est surinvesti. Le moment où ça se passe est surinvesti au détriment du passé, c'est-à-dire de l'inscription dans une tradition ou une histoire, et au détriment de l'avenir, c'est-à-dire le fait de se projeter vers un accomplissement ou des fins dernières, hein, d'une certaine manière. Or, la culture chrétienne, par rapport à ça, n'est pas toujours, pas toujours en face, puisqu'elle se nourrit une référence constante à ce qui nous a précédé, c'est-à-dire la vie et le message de Jésus, et aussi en avant la mémoire juive, et aussi à ce qui nous attend dans l'au-delà. Donc au fond, ce qui caractérise la période contemporaine, c'est l'immanentisme, pour me permettre un peu de jargon quand même, et c'est l'immanentisme, c'est-à-dire en fait la culture du présent, hein, faut le dire en français, c'est encore plus que le matérialisme, aujourd'hui, un des principaux obstacles à l'adhésion à la religion chrétienne, me semble-t-il. Voilà. Alors... Ah ouais, je vais y aller quand même. Dans l'enquête, on s'est retrouvé face à un corpus parce que les gens pouvaient répondre avec, dans leurs termes à eux, y compris aux questions qu'on ne leur posait pas. Et dans les questions qu'on ne leur posait pas, dans les endroits où il y avait une expression libre, on a vu arriver, mais alors très très souvent, spontanément, puisque je n'avais même pas pensé à poser la question, la distinction que les gens faisaient entre religion et spiritualité, tel qu'ils le voient et tel qu'ils le vivent. Hein. Et on s'aperçoit qu'ils font une distinction très nette entre les deux. Là où dans la culture chrétienne, on pensait que les deux étaient associés. Et en fait, il y avait deux... dans ces réponses, donc je vous dis totalement spontanées, c'est eux qui y ont pensé, il y avait j'ai fait deux grandes catégories de réponses. Pour les uns, la spiritualité, telle qu'ils la conçoivent, s'oppose à la religion, comme si la religion était un obstacle à la spiritualité. Et puis il y a d'autres conceptions pour qui la spiritualité est un dépassement de la religion, hein, sans pour autant s'y opposer forcément. Alors, je vais passer en revue très rapidement les composantes de... Alors, je ne dis pas que c'est la vérité, ce n'est pas forcément la vérité sociologique, ce n'est pas forcément la vérité théologique, sûrement pas d'ailleurs, mais c'est la vérité vécue. Or, ce qui est vécu, ce n'est pas, c'est pas subjectif, c'est objectif, parce que la manière dont on vit les choses nous fait agir objectivement. Donc, la subjectivité, c'est une objectivité. Hein, et la théologie n'a rien à voir là-dedans. Alors, la spiritualité contre la religion. La première idée, c'est les gens, je vais vous prendre qu'une citation pour rester dans les temps, c'est les gens qui nous disent que la religion... Pour eux, c'est une division, alors que la spiritualité, c'est ce qui fait l'unité. Une seule phrase, qui n'est pas de moi. Les religions nous enferment dans une tradition dans le temps et l'espace. La spiritualité rassemble tous les hommes, la religion les divise. Donc, dans ce groupe des gens qui pensent que la spiritualité s'oppose à la religion, un, la notion de division. Deux, ceux qui nous disent, au fond, la religion, c'est une fermeture. Alors que pour moi, la spiritualité, c'est une ouverture. Citation. Moi, la religion, elle est accrochée à sa divinité, Jésus, Dieu, Allah, Bouddha. Bon, Et on nous enferme dans une doctrine sectaire. La spiritualité, c'est le divin dans chacun d'entre nous et se connecter à l'amour inconditionnel. Cette manière-là de se représenter, religion fermeture, spiritualité ouverture. Troisième chose, religion comme institution, la spiritualité, c'est une aspiration. Bon là, ça paraît évident. Moi-même et beaucoup de personnes proches ont une grande aspiration vers le sacré, vers Dieu, le travail intérieur, et non pas ce que donnent à voir aujourd'hui les religions officielles. Et puis, quatrième idée d'opposition, c'est la religion, c'est de la contrainte. La spiritualité, c'est de l'épanouissement personnel. C'est comme ça que c'est vécu. Toujours avec leurs mots, pour moi, la vie spirituelle sert à vivre heureux. Ça, c'est important. Cette valeur a été perdue par les églises chrétiennes qui ne m'ont aidé en rien à vivre mieux. Voilà, quatre manières de se représenter la religion comme obstacle. Et puis, il y a ceux qui disent, ben non, la spiritualité, c'est un dépassement de la religion, mais c'est quand même la même famille. Malgré tout. Et là, parmi ceux qui donc insistent entre la distinction entre spiritualité et religion, ou démarche religieuse, démarche spirituelle, il y en a un certain nombre qui voient au contraire une inclusion. Mais les limites de l'une doivent être dépassées par l'autre. Et première manière de le dire, la religion, au fond, c'est comme une matrice. C'est comme une étape pour progresser vers la spiritualité. Il y avait une citation que j'aimais bien, quelqu'un disait « Pour moi, la religion représente comme l'école maternelle et primaire ». La spiritualité m'a ouvert un approfondissement sans cesse repoussé de mon intériorité. Donc voilà, religion c'est une matrice, mais on progresse vers la spiritualité. Deuxième idée, la religion c'est une forme primitive et la spiritualité une forme aboutie. On est toujours dans les représentations de la spiritualité aujourd'hui dans le monde occidental. Et par exemple, il y en a un qui dit finalement, alors là j'ai pas tout compris, hein. Les religions ont confisqué la spiritualité, l'homme doit passer du stade préhumain, ce qu'il est actuellement, au stade d'humain, qui est le rôle de la spiritualité. Donc là, ce n'est pas forcément évident. Le seul chemin est le développement de la conscience. Religion, forme primitive, spiritualité, forme aboutie. Religion, c'est un moyen, au fond. C'est le prix à payer pour accéder au spirituel, qui est une fin. Alors là, il y a quelqu'un qui avait une image formidable. C'est l'Église, c'est comme un tuyau rouillé dans la montagne. Mais elle permet quand même à l'eau d'arriver jusqu'à nous. Donc il y a de la fuite, mais il y a quand même de l'eau qui passe. Voilà. Et puis le quatrième thème dans cet esprit-là qui est évoqué, c'est la convergence de toutes les religions. Hein? Quelqu'un me citait tout à l'heure dans une discussion la phrase de Ramon Panikkar en disant, à propos de la montagne, puisqu'on est en montagne, il y a plusieurs chemins pour gravir la montagne, c'est toujours le même sommet. Et c'est une phrase sur la convergence, c'est avancer dans la spiritualité, permettre d'être de moins en moins sectaire quant à la religion, puisqu'au bout du compte, elles se rejoignent toutes et que Dieu est un. C'est à peu près la phrase de Solène aussi. Hein. Voilà, donc cette représentation religion contre spiritualité, qui est une chance pour la spiritualité, pas forcément une chance pour la religion telle que certains la voient. Et alors je terminerai, puisqu'il me reste 6 minutes, ça te va ? Par un paradoxe. C'est que la spiritualité a de l'avenir. Hein. Elle a d'autant plus d'avenir que sur un certain nombre de points, enfin la démarche spirituelle, pardon, que sur un certain nombre de points, la société générale autour de nous a l'air de partir aussi en sens inverse. C'est-à-dire qu'au fond, la démarche spirituelle, telle qu'on la lit dans tous les entretiens, les enquêtes, etc., elle privilégie la voir sur l'être. Elle définit les gens par ce qu'ils font et non pas par ce qu'ils ont. Parce qu'ils sont et non pas parce qu'ils ont ou parce qu'ils paraissent. Je vois que vous suivez, ça, c'est quand même sympa. La démarche spirituelle, c'est l'inverse. Mais si on y réfléchit bien, la spiritualité chrétienne contient ça aussi. Tout le monde ne le sait pas. Deuxième décalage, c'est que l'homme contemporain, il est multifonction. On est découpé en petits bouts, on a des facettes, on a la foi parent, conseil syndical, cadre sup, militant je ne sais pas où, etc. Et tout ça est en petits bouts. Et que la démarche spirituelle, telle qu'elle est définie par les gens qui sont dedans, privilégie l'unité sur l'éclatement et l'aspiration à se donner un centre. Ça, c'est pour les démarches spirituelles qui partent telles qu'on les a décrites. Si on réfléchit bien, dans le christianisme, on doit pouvoir retrouver ça aussi. Hein. Mais ils ne le savent pas. Troisième chose, c'est que l'instrumentalisation de l'autre, c'est vraiment un mode courant de fonctionnement dans les relations avec les autres. Et que la démarche spirituelle repose sur la conviction que la vie avec les autres doit d'abord être vécue comme une relation et pas comme un rapport de force. Tout ça, on l'entendait ce matin aussi beaucoup. Et christianisme aussi, finalement. Hein. La modernité, quatrième idée, elle privilégie, je vous l'ai dit, le présent, l'ici et maintenant, l'histoire avant, on ne sait pas, et les fins dernières, on ne sait pas. Mais le rapport au temps de la démarche spirituelle, on a vu que, effectivement, le rapport à l'histoire n'est pas évident, mais le rapport à sa propre histoire est fondamental, à sa propre évolution. Et tout le monde parle de son évolution spirituelle en termes d'itinéraire. C'est-à-dire qu'au fond, on revalorise la notion de durée, par opposition à la notion d'immédiateté, dans la démarche spirituelle. On réintroduit de la lenteur alors que ça court partout autour de nous. Ça aussi, c'est important. Et le christianisme aussi, si on y réfléchit bien. Voilà. Alors, le paradoxe, c'est que la démarche spirituelle, elle est à la fois complètement imprégnée de la modernité, ce que je vous ai dit au début, et en même temps, elle fait un pas de côté. Hein. Et en fait, dans toute société, quand une représentation sociale est généralisée, et ce dont je vous parlais en première partie, on a toujours un besoin personnel et individuel de rééquilibrage ou d'autonomie ou d'un lieu alternatif. Hein. C'est ça la chance de la spiritualité. Alors, Régis Debray, il avait une expression que je trouve assez sympa, il parlait de l'effet de jogging. Et il disait que plus les gens ont eu des voitures, et plus les gens les ont utilisées, y compris pour faire des petits déplacements de presque rien, plus on a vu se développer le besoin d'aller à pied, de courir, de faire du jogging, de marcher et de randonner. Voilà. Et pour prendre un exemple qui est plus dans notre domaine, c'est vrai que plus on vit dans une société matérialiste et de bruit, plus on voit se développer des stages, des retraites de silence ou d'intériorité, ou des chemins de Compostelle, ou des immersions 8 jours de suite dans la nature, etc. Ça ne veut pas dire qu'on se coupe du monde. Ça veut dire qu'on reprend de l'énergie spirituelle pour replonger après dans le monde tel qu'il est, qu'on ne va pas changer, sur le plan spirituel en tout cas. Donc, on refait ses batteries. Et au fond, l'avenir de la spiritualité, elle est alimentée par son décalage avec la culture dominante, ce décalage positif avec la culture dominante. Elle en tient compte, mais elle intègre tout ce que je viens de dire. Et le problème de l'Église, c'est qu'elle n'est pas tellement dans le décalage, elle est plutôt dans le déphasage. Mais ça, c'est un sujet qu'on ne m'a pas demandé de traiter.